Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota.
Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Cela fait 12 ans que règne le roi Louis XVI. Nous sommes donc en juin 1786. Il avait eu le devoir de saisir les rênes du pays alors qu'il n'avait que 20 ans, Louis XVI. Vous imaginez ça? Les affaires politiques l'avaient jusqu'alors empêché de voyager. Et en 12 ans, il n'avait jamais eu l'occasion de se rendre dans ses provinces. C'est assez inouï d'ailleurs d'imaginer ce roi extrêmement sédentaire. La dernière sortie qu'il avait faite, c'était le 11 juin 1775 jusqu'à Reims. Et pour cause, il s'agissait tout de même d'aller à son sacre. En juin 1786, le voilà qui veut enfin quitter Versailles. Il faut vous dire qu'en 86, l'atmosphère devient assez irrespirable dans le château des rois. L'affaire du collier de la reine empoisonne l'atmosphère de la cour. Et puis surtout, Louis XVI a un rêve qui est un rêve d'enfance. Et ce rêve, c'est d'aller voir la mer. Depuis qu'il est adolescent, il se passionne pour la mer, pour l'océan. Vous savez que Louis XVI est extrêmement féru de géographie, de cartographie. Comme roi de France, il a permis au royaume de recouvrer une marine puissante, marine que la France avait perdue à l'occasion de la guerre de 7 ans. C'est cette marine qui est allée aider les tout jeunes États-Unis d'Amérique à conquérir leur indépendance. Et dans une même logique de soutien à la marine française, eh bien Louis XVI va faire fortifier un certain nombre de ports, et parmi ces ports, celui de Cherbourg, qui avait été détruit par une descente anglaise pendant cette fameuse et terrible guerre de 7 ans, c'était en 1758. 37 navires à l'époque, 37 vaisseaux du roi avaient été incendiés, les nouveaux quais avaient été démontés et jetés, et Louis XVI voulait que soit construit, reconstruit, un port qui fût capable de tenir tête aux Anglais. Je cite Jean-Christian Petit-Fils dans sa célèbre biographie de Louis XVI, je le cite. « La cinglante défaite de la Hougue sous Louis XIV, la descente des Anglais dans le Cotentin pendant la guerre de 7 ans et, plus récemment, le conflit des Amériques, avaient souligné le grave inconvénient pour la France de ne pas posséder de port naturel servant de refuge et de base opérationnelle dans la Manche, contrairement à la côte sud de l'Angleterre qui en regorgeait. C'est cette lacune que voulut combler Louis XVI en décidant de construire à l'extrémité du Cotentin, en avant de la rade ouverte de Cherbourg, alors modeste bourgade de pêche, une digue en eau profonde, créant une rade artificielle capable d'accueillir une véritable flotte de guerre. Donc, en 1783, on a confié les travaux à un ingénieur des ponts et chaussées de renom, Louis-Alexandre de Cessard, et 3 ans plus tard, eh bien, Louis XVI prend prétexte de la nécessaire visite de ce grand chantier pour réaliser son rêve d'enfance, pour aller voir la mer, aller la voir à Cherbourg. Le départ est prévu pour le 21 juin 1786. On doit voyager pendant 9 jours. Le roi a bien l'intention que ce périple se fasse dans la plus grande simplicité. Il ne veut presque pas d'entourage. Le mercredi 21 juin 1786, il est 5h du matin quand la magnifique berline royale quitte la cour du château de Rambouillet et prend, ça y est, la direction de la mer.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors c'est le roi lui-même qui a veillé à toute l'organisation du voyage. Il entendait bien être au plus près de ses sujets, au plus près des Français qu'il allait croiser sur sa route. Encore Jean-Christian Petit-Fils, un extraordinaire contact s'établit tout de suite entre le monarque et les populations locales. Lui, si emprunté, si mal à l'aise à la cour, trouva d'emblée son public au milieu des braves gens de la campagne, jouant le rôle du roi simple et débonnaire, à l'embonpoint bienveillant, répondant à leur attente admirative, distribuant les aumônes et les exemptions d'impôts. Ce mélange de bonhomie et de spontanéité naturelle faisait merveille, comme si se jouait à près de 2 siècles de distance une nouvelle épopée henricienne. Plusieurs témoins notèrent son humeur joyeuse à Oudan. Une femme en larmes implorait à genoux des secours pour ses 12 enfants. « Je vois un bon roi !» s'écria-t-elle. « Je ne désire plus rien dans ce monde. » Elle voulut l'embrasser, Louis accepta en riant et il rendit son baiser. À l'Aigle, ce fut un aubergiste qui lui donna l'accolade. Et à mesure comme ça qu'on progresse sur les routes, qu'on s'enfonce dans les terres normandes, les foules se rassemblent au passage du roi. Si je vous raconte tout cela ce matin, c'est que Gérard de Cortanze vient de faire paraître chez Albin Michel un ouvrage, un récit romancé qui retrace justement ce voyage de Louis XVI en Normandie. Ça s'appelle « Le roi qui voulait voir la mer ». Voici ce qu'écrit Gérard de Cortanze. « Une sorte d'hystérie collective s'empara bientôt de la foule, mêlant dans une même houle gens du peuple et bourgeois. » Représentant du clergé et aristocrate, au milieu de cette fureur, le seul à garder son calme, c'était le roi. Il y avait autant de monde dans la rue qu'aux fenêtres. Louis n'avait jamais connu un tel triomphe, même le jour de son sacre. Toujours, il allait au-devant de son peuple, serrant la main du chirurgien, celle du maître chartier, du recteur d'école et du valet de ferme en sabots et chemises. Louis XVI, on le sent bien, est très heureux de ce qu'on pourrait appeler nous un bain de foule. Il s'éloigne de Versailles, il apprécie la ferveur populaire et sur la route de Bayeux, il va s'arrêter dans une petite auberge au bord du chemin et commander des œufs frais, du pain et du beurre. L'aubergiste ne s'attendait pas à recevoir le roi de France. Vous imaginez, dans sa modeste auberge, tout le village afflue, tous les alentours sont en émoi et le roi va payer sa tournée générale. Lorsqu'il retourne dans sa berline, Louis XVI dit à ses conseillers « Pourquoi reçois-je ici des témoignages d'amour auxquels je ne suis point habitué ?» Et il y a même un poète local qui va venir lui déclamer des vers. « Ô roi qui passait par nos champs, toujours heureux et plein de gloire, dans la paix ou dans la victoire, vivez !» C'est le vœu des Normands. Il écrit lui-même un billet à Marie-Antoinette. L'amour de mon peuple a retenti jusqu'au fond de mon cœur. Jugez si je ne suis pas le plus heureux roi du monde. Dans la soirée du 22 juin, après 2 jours de ce voyage, Louis XVI enfin arrive à Cherbourg où il va pouvoir réaliser son rêve d'enfant. Ça y est, il la voit, la mer. De plus royal et bonhomme à la fois que ce concert de symphonie d'Antoine d'Auvergne, c'est William Christie qui, depuis son clavecin, dirigeait l'ensemble Capella Coloniensis.
Vous écoutez Radio Classique.
Petit matin du 23 juin 1786, nous sommes à Cherbourg. On peut dire que le roi n'a pas beaucoup dormi. À 3h du matin, il est déjà sur le pied de guerre pour aller observer l'immersion d'un cône qui constitue un de ces cônes qui constitue la digue qu'on est en train de construire. L'ingénieur de César, faut vous dire, a imaginé pour construire cette digue de Cherbourg une sorte d'immense cône en bois qui fait 25 mètres de large, 50 mètres à la base et 20 mètres au sommet. 25 mètres de haut, hein, plutôt, 50 mètres à la base et 20 mètres au sommet. Et ces cônes sont remplis de pierres, remorquées au large afin d'y être lestées. Ce sont quelque 90 icônes qui, à la fin des travaux, finiront par former cette digue de Cherbourg. Et le 23 juin, donc, le roi vient assister à l'immersion du 9e de ces icônes. Il est 3h30 du matin, le roi d'abord assiste à la messe, petite messe pour lui, et puis il monte dans sa berline en direction des quais. Il fallait bien Gérard de Cortance pour nous décrire cette première rencontre du monarque géographe avec cette mer qu'il attendait depuis toujours. L'air était serein, nous dit-il. Le ciel étincelant, il imaginait un grand lac tranquille, plat, comme un miroir. Des bâtiments du gouvernement jusqu'au rivage de Chantraine, d'où il observait l'immersion du fameux cône, les troupes de la garnison formaient une large haie, mais, contrairement à la foule de la veille, il régnait tout le long du trajet un grand calme, rompu de temps à autre par le bruit des vagues et les cris des mouettes, comme si une nouvelle messe devait être célébrée, celle de la réunion de l'eau et du ciel. Ça y est, ça c'est le rêve d'enfance qui se réalise. Il est proposé au roi d'embarquer sur une sorte de barge pour aller admirer de près les nouvelles pyramides des mers qu'on est en train, comme cela, d'immerger. À l'étonnement général, le roi, qui vient à peine de découvrir la mer, se révèle parfaitement à l'aise sur cette embarcation. Il a le pied marin. On peut pas en dire autant des ministres qui l'accompagnent et qui vont rejeter leur déjeuner à la mer. La lorgnette à la main, le roi donne l'ordre d'immerger le cône qui avait été remorqué dans cette baie de Cherbourg. Et au son des tambours qui roulent sur le port, au son de l'acclamation d'une foule déjà lointaine et qu'on a rassemblée sur les quais, la pyramide va s'enfoncer comme ça dans les flots. Et par la suite, on propose au roi de monter sur un vaisseau neuf de 74 canons qui s'appelle le Patriote. On lui propose de monter sur le pont du navire en empruntant, bien sûr, l'escalier officiel, enfin l'échelle de meunier, vous savez, mais l'échelle de coupé, comme on dit. Le roi va préférer prendre l'échelle ordinaire, celle des matelots, et une fois sur le pont, il échange avec les gens du bord. Et il va surprendre ceux qui sont pourtant très aguerris, très amariné par l'étendue des connaissances qu'il possède. Il faut vous dire qu'il a tellement de livres de géographie, de navigation, etc. Il a une vraie culture scientifique, Louis XVI. Une culture technique également, qui reflète l'intérêt de son temps pour la science, pour les découvertes. Je crois qu'on doit pouvoir dire qu'à ce moment-là, Louis XVI est parfaitement heureux. Il veut tout voir, tout visiter, tout inspecter. C'est lui qui avait ordonné la construction de ces fameux navires de 74 canons qui doivent être le symbole de la renaissance de la marine française. Il avait tellement et tellement parcouru les plans de ces navires sur son plan de travail à Versailles. Et voilà que maintenant, il peut voir ce que ça donne et voir cela de ses propres yeux. Lorsqu'il regagne les quais du port à bord d'une chaloupe, les foules sont encore présentes, bien sûr, elles se sont même accrues et qui sont là pour l'acclamer. Le capitaine Laroche, qui accompagne le monarque, lui glisse à l'oreille « Après un bain de mer, il vous faut un bain de foule. À quand le bain de pied ?» Le roi, vous voyez, l'atmosphère quand même très détendue de ce voyage royal. À la tombée de la nuit, Louis XVI a manifesté l'intention de se promener le long des quais, de s'y promener seul. Je cite encore Gérard de Cortance. Après avoir revêtu des habits plus discrets, il prit la direction du port avec l'intention de s'y promener seul. Le soleil couchant avait cédé la place à la montée glauque de la nuit, la ville dormait, l'une après l'autre, toutes les lumières avaient disparu des fenêtres. Louis ne voyait pas la mer, mais il l'entendait. Il la sentait, imaginant les vagues venant fouetter les vaisseaux de guerre ancrés plus loin là-bas dans les ténèbres, et plus près, rien que le très léger bercement des fines goélettes le long du quai et l'insensible clapotis de l'eau qui remuait à peine. Les bateaux, les pierres, la mer elle-même semblait dormir sous le firmament poudré d'or et sous l'œil d'un petit phare qui, debout sur la jetée, veillait sur le peuple endormi de la mer. Louis sentait la pêche et le goudron qui flambe, la saumure et la coque des barques. Sur les pavés des rues, éclairés par de rares rayons de lune, il apercevait des écailles de sardines briller comme des perles. Le lendemain, Le roi de nouveau va embarquer sur le Patriote afin d'assister à la reconstitution d'une bataille navale qu'on a pour lui exprès organisée dans cette baie de Cherbourg. Et alors qu'il était prévu qu'un navire s'embrase avant de couler, Louis XVI exige qu'il n'en soit rien, que le bateau soit vendu et que l'argent qu'on en tirera soit distribué aux nécessiteux de cette ville de Cherbourg. Nombreux sont les marins qui demandent au roi des nouvelles de Monsieur de La Pérouse. Eh oui, ça fait déjà un an que le navigateur a quitté Brest sous l'impulsion de la monarchie française, avec la mission d'aller effectuer une exploration de l'océan Pacifique. On est tout à fait dans la lignée de ce que fait pour les Anglais James Cook, à la même époque, bien sûr. Le roi souhaitait achever la cartographie de la planète. Il voulait ouvrir de nouvelles routes maritimes, de nouveaux comptoirs, et puis, bien sûr, enrichir la connaissance géographique et scientifique. Louis XVI partage avec les marins la passion des océans. Il imagine la boussole et l'astrolabe parcourant l'immensité du monde. Et vous savez ce qu'on raconte, on dit que jusqu'au jour de son exécution, Louis XVI demandera « A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ?» Le ballet du premier acte d'Iphigénie en tauride de Gluck, bien sûr. Les musiciens du Louvre étaient, comme il se doit, dirigés par Marc Minkowski.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ah, Louis XVI est bien content de s'être éloigné de Versailles, à Cherbourg et partout. D'ailleurs, il est acclamé. « Je n'ai jamais mieux goûté le bonheur d'être roi que le jour de mon sacre et depuis que je suis à Cherbourg », dit-il. Les archives de la ville en témoignent. « Il nous est presque impossible d'évaluer la quantité d'étrangers venus en cette ville pendant le voyage de Sa Majesté. L'on peut cependant au moins en porter le nombre à 50 000 personnes. » La foule étonne les proches de Louis XVI, tous les gens qui sont là, qui l'accompagnent. Le comportement du monarque les surprend, plus encore, lui qui d'habitude se montre tellement timide, alors qu'il partage un fastueux buffet avec les officiers sur le pont du Patriote, il se dirige vers un groupe de marins pour les interroger. Il leur demande ce qu'ils ont mangé, un pâté de poisson salé, en l'occurrence. Alors Louis XVI dit, mais je pourrais peut-être y goûter, moi, ce pâté. Messieurs les marins, dit-il, je vous le dis, je préfère ce pâté à tous ceux de Versailles. L'historien de la marine Étienne Taimi, dans son ouvrage Louis XVI ou le navigateur immobile, écrit « Acclamé à chacune de ses apparitions par une foule aussi immense qu'enthousiaste, il pouvait mesurer la ferveur royale qui demeurait alors, puisque, lors de ce voyage, aucune fausse note ne put être remarquée. Comment ne comprit-il pas qu'il possédait là un atout majeur capable de contrer toutes les intrigues du microcosme versaillais et parisien ? C'est vrai que c'est incroyable que 3 ans seulement avant 1789, Louis XVI n'ait pas gardé le souvenir de cette ferveur populaire qui lui aurait sans doute permis d'inverser par la suite le cours des choses. Mais enfin, ça c'est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez ? Le dernier soir approche à Cherbourg et c'est encore à Gérard de Cortanze qu'il appartient de nous le décrire. Il se souvint alors qu'il avait promis à ses enfants de leur rapporter à chacun un cadeau de la mère. Dans sa poche, il avait une topette recouverte de cuir vernissé qu'il remplit soigneusement d'eau salée. Elle serait pour sa fille. Dans un sac en tissu, il glissa une petite araignée à la carapace épineuse pour le dauphin. Et pour son dernier fils, il trouva une belle étoile de mer, corail, à 5 bras. Et pour l'enfant à naître, il ramassa un buccin aux formes ondulées parfaites dont les rainures spiralaient, brillaient sous les rayons de la lune. Après 6 jours, loin des rumeurs, loin des pièges de Versailles, eh bien, ça y est, il va falloir prendre le chemin du retour.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le 26 juin, 4h30 du matin, le roi monte dans les carrosses pour quitter la ville au bruit des canons, des cloches et de l'acclamation des habitants les plus matinaux. Le soir, il sera à Caen où il rencontrera le même enthousiasme. Le lendemain, il traverse Honfleur, l'estuaire de la Seine, sur la corvette L'Anonyme qu'il conduit au Havre. Foule en liesse, hein, toujours, qu'il accueille sur la jetée. Le 27 juin, il visite le Havre et le chantier naval. Il discute longuement avec les calfas, les ouvriers qui sont en charge du calfatage des bordées de navires. Hein. Il assiste ensuite au lancement d'un navire et face à ce spectacle, il affirme que rien n'est plus beau que ce tableau. Au Havre, le roi dit adieu à la mer et nous précise Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission de ce matin, il ne la reverra plus jamais, cette mer dont il avait tellement rêvé. Il quitte la Normandie le 29 juin 86. Comme les acclamations se font un petit peu moins fréquentes, le roi dit « Je m'aperçois que j'approche de Versailles, mais j'en sortirai plus souvent et j'irai plus loin que Fontainebleau. » Et cependant, ce voyage en Normandie restera son seul voyage en tant que roi, si on accepte évidemment le sacre au tout début du règne et puis à la toute fin, la célèbre fuite à Varennes, voyage interrompu celui-là. Je laisse la parole pour finir à Jean-Christian Petit-Fils. Une toute autre image du roi était apparue au cours de cet intermède enchanteur, loin des conventions et de l'atmosphère compassée de Versailles, où Louis semblait se morfondre. Il avait fait montre de curiosité, étonnant par l'ampleur de ses connaissances jusqu'aux professionnels les mieux avisés, s'intéressant particulièrement aux techniques et surprenant chacun par son amabilité, sa délicatesse, lui qu'on disait si rustre. Vis-à-vis des populations locales, non seulement il avait su faire preuve d'affabilité et de bienveillance, mais il n'avait eu ce qu'on appellerait aujourd'hui le sens de la communication, trouvant le mot juste pour chacun, le geste symbolique qui émeut, témoignant de son attention aux humbles, sachant se mettre à leur portée tout en gardant la dignité de son état. Au comte d'Hector, commandant de la marine à Brest, qui avait fait le voyage de Cherbourg, il avait annoncé son intention de visiter ainsi tous les ports. Oui, mais là, évidemment, les événements vont en décider autrement.
Vous écoutez Radio Classique.
Le roi qui voulait voir la mer, c'est l'ouvrage que Gérard de Cortance vient de faire paraître chez Albin Michel. Et voici, avec toutes sortes de violons sous les yeux, il va nous expliquer pourquoi, notre Christian Morin National.
Ça va vous intéresser d'ailleurs, comme les auditeurs, c'est une histoire formidable. Une fois de plus, Franck Ferrand vient de vous prouver qu'il passe tous les matins en vedette, à propos de Cherbourg, la fameuse vedette de Cherbourg, vous voyez ce que je veux dire.
Ça nous amènerait dans un autre épisode historique. Vous savez qu'il y avait une dame au concert hier soir qui m'a dit qu'elle adorait nos passages d'antenne, nous la saluons.
Ah ben écoutez, bonjour Martine. Bonjour madame, alors Martine,
oui.
Bonjour ma chère Martine, et heureux de vous rencontrer par le biais de la radio. Oui, je reviens sur ce concert, Renaud Blanc en parlait tout à l'heure, parce que ça a été vraiment un immense succès. D'abord, Gaveau était rempli jusqu'à
la vie. C'est du bien après toute cette période compliquée.
Exactement. Et puis, alors, votre modestie est là, mais votre complicité avec Alexandre Tarot a été soulignée davantage par la musique hier soir.
Ah oui.
L'histoire et la musique, et vous me disiez tout à l'heure qu'Alexandre avait été vraiment épatant et
éblouissant.
Formidable. Éblouissant. Donc, demain matin, on vous retrouve, bien évidemment, sur
avec
Antenne Radio Classique. Alors, ces violons, je vous explique de quoi ils retournent. C'est un nouvel album, d'abord, qui est excellent, par une violoniste, qui est non seulement très très belle femme, mais excellente musicienne, c'est Janine Janssen. Ce nouvel album est une heureuse initiative. Quelquefois, vous savez, on cherche des prétextes. Qu'est-ce qu'on va trouver comme thème pour sortir un album? Eh bien, elle l'a trouvé. 12 Stradivari. 12 Stradivarius. Ils sont là en photo.
Elle les joue tous les 12.
Elle les joue tous. Ils sont répertoriés. Qui ont été les propriétaires, à quelle époque ils ont été fabriqués par Stradivarius lui-même. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on écoutera ce son-là tout à l'heure en partage. C'est encore une idée éblouissante de Francis Drezel qui met la main sur des trésors, comme à chaque fois.
Il est doué, notre Francis.
Comme chaque matin. Ah, notre Francis, oui, je le salue amicalement d'ailleurs, et fraternellement. Merci Franck, à demain matin. Et bien...